Et ce matin, l'invité du 8-30, c'est Éric Mesnier. Il vient de publier aux éditions Nimrod « Secours en montagne, 10 interventions extraordinaires qui ont marqué à jamais ma carrière au sein du PGHM ». Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Alors, pour précision, vous n'avez pas exercé au sein du PGHM de Briançon, mais vous êtes briançonnais.
Oui, je suis originaire de Briançon et j'ai énormément de familles entre Saint-Chaffray, Villars-Lathé, Le Monnetier-des-Bains, Villeneuve. Donc, je connais très bien ce secteur-là.
Et vous connaissez très bien le territoire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la préface de votre livre qui a été écrit par Rémi Michelin. Êtes-vous un super-héros ?
Absolument pas. Il n'y a aucun super-héros qui peut exister. Le seul super-héros de ce livre, c'est l'équipe, en fait. C'est ce qui se passe dans la machine, c'est 5 personnes qui vivent ensemble, qui acceptent de temps en temps d'être en danger ensemble. Ça, c'est le héros, mais c'est un ensemble de personnes qui fait qu'on passe un cap. Mais non, chaque personne a du mal à vivre les situations de temps en temps, est confrontée à un peu de peur, un peu de doute, de la joie, amène sa stratégie humaine dans l'équipe pour que ça devienne, l'équipe devienne le héros. Mais on ne fournit pas à l'entrée, quand on rentre en unité spécialisée, personne n'a une cape de super-héros, bien évidemment.
Et d'ailleurs, vous l'écrivez, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des sauveteurs. Quelle est la différence entre, alors pas Dieu et sauveur, mais la différence entre sauveur et sauveteur.
Sauveur, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir sauver tous les gens. Sauveteur, c'est qu'on va conditionner les gens, on va éviter qu'ils s'enfoncent et que pour les conduire à l'hôpital, on ne peut pas faire d'acte sur le terrain, on ne peut pas opérer sur le terrain, on ne peut pas passer une écho, on peut pas. Il y a encore des petits systèmes qui nous permettent 2-3 petites avancées technologiques, mais on peut pas. Nous, on est juste là pour sécuriser la personne, la conditionner, la stabiliser et l'évacuer. Après, les gens qui font les tâches du dessus et qui peuvent vraiment sauver les gens. Ce sont les médecins, c'est les équipes constituées avec les infirmiers, avec les radios, les IRM, etc. Nous, on est juste là pour conditionner et stabiliser.
Alors, vous ouvrez votre livre avec, bien sûr, le début de votre carrière au sein du PGHM. C'est le moment où on vous dit, ça y est, vous entrez au sein du PGHM. Vous avez commencé à Chamonix, mais très peu de temps. Finalement, vous êtes parti du côté de l'Isère. Ce moment où on vous dit, ça y est, vous êtes intégré à un peloton de gendarmerie de haute montagne, c'est un moment que l'on attend.
Oh oui, très très longtemps. C'est long d'y rentrer. Alors déjà, je précise juste que Chamonix, je n'y ai pas été. Par contre, je faisais énormément soit de renfort, soit je me formais au centre de formation, le CNISAG, à Cham. Et à chaque fois qu'on monte là-haut, on reste une semaine, des fois un mois, 5 semaines. Donc on n'a pas d'attache avec le PGHM, mais on est en formation. Mais rentrer en PGHM, quand on le veut, on le désire, et qu'on n'est pas guide à la base, parce qu'on peut rentrer en étant guide, le cursus est un peu plus rapide. C'est 4, 5, 6 ans de travail pour y arriver. Et quand on passe dans ce cérémonial avec cet officier qui est en face de vous, qui est le responsable de toute la structure montagne de France, et qui vous dit que vous venez de réussir les tests, à chaque fois il répète parce qu'il sait très bien la charge émotionnelle et ce que ça procure. Donc il le répète derrière. Et c'est juste à ce moment-là qu'on commence à comprendre.
Et oui, parce que vous n'étiez pas guide cette formation, vous l'avez passé après. Comment on devient comment on intègre un PGHM?
Il y a plusieurs solutions. C'est soit vous êtes déjà du milieu montagne et vous pouvez aller chercher des qualifications dans les brevets d'État qui peuvent y avoir, du moniteur de ski, du guide de haute montagne, d'aspirant guide, tout ce qui peut exister dans ce milieu montagne. Après, de toute façon, c'est obligatoirement les tests d'entrée pour entrer en gendarmerie. Le cursus de base est strictement le même, l'année d'école. Et après, on peut éventuellement intégrer directement le PGHM avec une formation en interne où on va faire plusieurs stages du secourisme, du judiciaire. Et après, quand on a ce package-là, on peut intégrer officiellement. Ou alors, intégrer la gendarmerie en étant plus ou moins sportif, en ayant fait déjà pas mal de montagnes, mais pas un brevet d'État. Et après, en interne, on a différentes strates de formation pour autonomiser les gens et à la fin, être responsable d'une cordée. Et c'est un peu l'aspirant guide en interne dans ce milieu gendarmerie. Et après, on peut repasser les tests pour entrer en unité spécialisée. Et là, on se retrouve avec le même cadre et la même formation derrière.
Alors, vous avez retenu 10 interventions qui ont marqué votre carrière. On va revenir sur certaines de ces interventions. Est-ce que ça a amené comme leçon aussi pour vous? Mais 10 interventions dans une carrière, ça doit être très compliqué à choisir.
Alors, oui et non.
Oui et non.
Alors c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. On note jamais hein, les secours, c'est c'est un rituel militaire quand on s'en va à la retraite. Notre dernier officier, notre dernier patron, il aime bien aller grenouiller pour nous donner des chiffres parce que eux, même eux, ils sont curieux de savoir combien on a fait d'interventions, etc. Donc c'est là qu'on sait quand. Moi, j'en ai fait à peu près 600. Sur ces 600, en retenir 10, oui, c'est dur. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en faisant une prospection, on en a déjà au moins 7 ou 8 qui sont gravés dans notre tête et gravés dans notre cœur, parce qu'ils ont attiré une charge émotionnelle différente, parce qu'ils nous ont mis dans une situation très très complexe qu'on n'a pas vécu souvent. Après, c'est juste aller les récupérer et puis leur redonner une petite forme. Et c'est quoi le message qu'on veut faire passer à travers ça?
Alors justement, parlons de votre première intervention seule. Premier secours seul, ça a été une charge émotionnelle. Et ça vous a valu un surnom, celui de Motorola 38.
Oui, c'est vrai. On s'y attend pas, en fait. Moi, j'ai fait partie de l'ancienne formation où j'étais formé en interne avec beaucoup d'anciens qui, avec une super bienveillance, qui sont tous les jours autour de nous, qui nous laissent travailler de plus en plus en autonomie. On monte tout le temps avec eux, en renfort avec eux, et c'est toujours eux les responsables et les chefs. Et à un moment donné, on a cet aval qui fait... au moment même de la réception de l'alerte, on n'est pas prévu, on ne sait pas que tel jour, telle heure, on va partir seul en secours. Donc on a l'adrénaline qui monte, on a tellement envie de bien faire qu'on répète 40 fois les mêmes gestes, on a tellement peur d'oublier de faire quelque chose qu'on le refait 40 fois. Et voilà, et puis ça amène une charge émotionnelle. Le secours était banal, c'était un genou au sommet des remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez. C'est pas très grave, il n'y a pas d'engagement, c'était peut-être le bon moment pour que j'y aille et que je découvre que même là, dans du facile, eh ben, j'ai fait des erreurs, j'ai trop parlé, je pensais être concis, je pensais être simple dans mes propos, j'ai voulu en rajouter et puis voilà. Donc le terme de Motorola 38, c'est que j'ai utilisé la fréquence radio à moi tout seul pendant presque une heure.
Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante que vous venez de dire, on reproduit plusieurs fois à 40 reprises les mêmes gestes. Dans votre livre, on sent très bien, et d'ailleurs vous le dites très souvent, on agit comme des robots. C'est presque de l'automatisme.
Ouais, en fait, on est tellement plongé dans un environnement qui est hostile. On prend un hélicoptère, c'est pas anodin, on monte dedans, ça vibre un peu, on arrive, on a une porte qui s'ouvre, on est treuillé, on a des gens qui comptent sur nous, on a des victimes, on a des blessés, on a des blessures très graves, voire très très graves ou malheureusement mortelles pour certaines personnes. Et avec du vent, de la neige, un pilotage des fois compliqué pour ces héros du pilotage. Ah ben si on n'a pas travaillé en amont et qu'on n'a pas répété sans cesse les gestes et que ce soit pas devenu quelque chose d'inné et d'acquis, on arrive, s'il faut comprendre le geste qu'on va faire, la manipulation du mousqueton, la manipulation de l'ouverture de la perche, etc., on perd un temps fou. Et le temps, c'est la clé du succès. Si en 5 minutes on a conditionné la personne et qu'elle est partie, c'est superbe. Si on en a mis 12 parce qu'on s'est pas bien entraîné avant et qu'on n'a pas maîtrisé notre outil, eh ben on est en capacité de commencer à avoir un doute. On n'arrive pas à 80-90% de notre potentiel intellectuel. On arrive déjà à 50 ou 60 et on va être encore obligé d'analyser la situation sur place. Ça nous bouffe un temps fou et le temps, c'est forcément la clé de la réussite.
Et c'est ce que vous mettez en avant notamment pour l'une de vos interventions qui s'est mal finie pour le coup. Dans une avalanche, les chances de survie d'une personne ensevelie s'amenuisent au fil des minutes. 90% si elle est découverte dans les 20 minutes, 35% dans les 35 minutes pour tomber à 10% après 2 heures. Vous êtes intervenu sur une avalanche. Vous mettez d'ailleurs en avant le chien qui intervient et qui à ce moment-là, d'ailleurs le chien Oggy, qui surprend toute l'équipe parce qu'il va marquer un territoire bien au-delà de l'avalanche.
Oui, c'est assez rare. C'est très rare, c'est très très rare, mais en fait l'avalanche, elle a continué sa course en glissant tout doucement et la masse qui a été transportée est passée sous la couche de neige assez dure et il n'y avait pas du tout de signe visuel qui puisse nous faire penser qu'on était encore dans la zone de coulée. Et le chien ayant tellement travaillé en haut qu'il vient sur la zone de repos et il continue à grenouiller un peu plus bas et c'est là qu'on l'a découverte. Malheureusement, cette personne n'avait pas de détecteur de victime d'avalanche et on essayait de récupérer tous les indices qu'on avait pu avoir sur le terrain. Et on était à 100 000 lieues malgré toutes les personnes qui étaient sur place et tout ce qu'on avait déjà vécu avec l'expérience qu'on avait. On était à 100 000 lieues d'imaginer ça. Bon, après, malheureusement, le sort de cette personne était déjà jeté depuis un petit moment. Ça n'a pas changé grand-chose, mais ça nous a interloqués et ça nous a vraiment stupéfaits de cette possibilité d'avoir quelqu'un à un endroit où il n'y a pas d'indice de surface.
Et là, justement, vous parlez d'un voyage dur émotionnellement pour deux raisons. D'abord, il y a le fait que vous devez secourir une personne, une victime qui était décédée. Et puis, vous avez en face d'elle, vous avez son frère qui est là et qui espère. Et là, vous agissez presque machinalement, vous essayez de la réanimer alors que vous savez très bien que cette personne est décédée. Et la deuxième phase qui est extrêmement dure, c'est qu'il y a l'enquête aussi. Ce qu'on oublie souvent de dire dans le PGHM, c'est que vous avez trois aspects. Il y a l'aspect secours, il y a l'aspect administratif et puis il y a l'aspect judiciaire. Et son frère, vous allez le rencontrer une nouvelle fois après.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand on récupère la jeune fille, on fait un bilan et au bilan, il n'y a que le médecin qui peut nous dire d'arrêter. Nous, on est des secouristes, on intervient, on fait le massage cardiaque. Donc le temps que le médecin fasse son bilan à lui et me donne son bilan et me finalise un petit peu ce qu'il faut que je fasse, ça prend quelques minutes rapides, hein, très rapidement. Il essaie de faire au mieux, il récupère toutes les données et rapidement, il jette un œil vers moi et il me dit voilà, c'est fini, on se comprend. Mais j'ai son frère derrière. Et en fait, j'ai pas massé pour, malheureusement, récupérer la jeune fille. J'ai surtout massé pour lui faire gagner du temps, pour qu'il comprenne. Je suis intimement persuadé que si je m'étais arrêté d'un coup...
ça aurait été trop brutal.
Toute sa vie, il aurait été traumatisé en disant ils ont rien fait jusqu'au bout. J'avais juste envie qu'il comprenne et de l'amener jusqu'à ce qu'il voie de lui-même que... On peut plus, on a fait vraiment notre maximum. Là, aujourd'hui, on a vraiment fait le maximum.
C'était nécessaire pour qu'il chemine. Comment on fait face au décès, justement, dans les interventions? Est-ce que on voit cela comme un échec?
Non, pas forcément. On essaie de prendre énormément de distance. Et c'est vraiment la subtilité de ce métier-là. C'est qu'on est confronté assez souvent à la mort. Et je pense qu'en fait, on a tous un récipient à côté de nous, que ce soit un tonneau, une piscine olympique ou un verre. Et qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, on essaie d'en discuter entre nous pour lâcher un peu du lest, pour un peu lâcher prise et puis avoir un petit exutoire. C'est souvent notre pause café du matin qui fait du bien à tout le monde. Et je pense que derrière, on jette dans notre récipient, on jette tout ce qu'on a vu avec ces émotions-là. Et on ne sait jamais jusqu'à quand et la qualité, la quantité qu'on peut mettre. Apparemment, je n'avais pas de piscine olympique pour pouvoir mettre toute ma détresse, mes peurs et mes émotions. C'était visiblement plus petit et à un moment donné, forcément, ça a un impact sur moi, sur ma possibilité de continuer. Et voilà, c'était un des facteurs qui a fait la charge émotionnelle et toute cette capacité de voir des deuils assez de manière récurrente. Moi, ça m'a mis un coup d'arrêt et émotionnellement, j'ai pas été capable de continuer. Mais on est complètement tous différents. Chaque secouriste est différent, est capable de prendre de la distance ou pas. C'est complexe, le deuil.
Il faut savoir renoncer aussi, parfois, et mettre fin à sa carrière.
Oui, je pense, mais ça, c'est encore une fois, c'est complètement personnel. Il y a des gens qui pourront vivre du secours jusqu'à la limite et qu'on vienne leur dire maintenant, il faut prendre la retraite parce qu'après, vous pouvez plus légalement, vous n'avez plus le droit. Mais c'est des gens qui ont peut-être su se protéger, qui ont peut-être su mettre les bonnes barrières, qui avaient un récipient plus grand. Par contre, moi, mon honnêteté intellectuelle, c'est qu'avec le récipient que j'avais, je savais que ça commençait à déborder, je savais que j'étais commencé à être pas bien.
Et il y a
que,
eu une goutte d'eau.
Je ne pouvais pas continuer décemment à faire prendre des risques. Je voulais pas devenir un boulet. Je ne voulais pas mettre en danger l'équipe et encore moins les clients qu'on allait chercher. Donc j'ai décidé d'arrêter pour être en totale transparence avec moi-même.
Est-ce qu'il y a eu une goutte d'eau justement qui a fait déborder cette piscine olympique dont vous parlez de manière métaphorique?
Ouais, il y en a une. Je vous touche à un endroit sensible. C'est mon parrain qui est décédé sur Chamonix dans une crevasse. Et j'ai jamais vu autant de monde sur la place de Chamonix. C'était un truc de fou, vraiment. Et puis il avait fait un onglet sur son ordinateur avec les musiques, avec les gens qui portaient le cercueil parce qu'ils s'y préparaient. On savait que ça pouvait arriver, malheureusement. Et quand on est sur le parvis de l'église et qu'on regarde tout le monde qui est là, qui pleure, qui est avec une musique, en plus, c'était les Black Eyed Peas, I've Got a Feeling, c'était un truc de fou, c'était complètement paradoxal par rapport à la situation qu'on vivait. Là, j'ai su ce que je ne voulais plus avec des enfants grands et prendre des risques tous les jours. Finalement, avec tout ce que j'avais vécu, ouais, ça a peut-être été la goutte d'eau, mais c'était bien, entre guillemets, hein, j'ai su aller de l'avant. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui marque encore très souvent.
Vous l'écrivez dans votre livre, Dans le milieu de la montagne, la chance est un facteur omniprésent. Alors c'est vrai que très souvent, nous on multiplie en tant que médias les appels à la prudence, surtout à bien préparer son itinéraire, à être équipé du fameux triptyque, un PEL et notamment des détecteurs d'avalanche. Mais il y a la chance aussi. Et ça, on ne peut rien faire. Soit on l'a, soit on ne l'a pas.
La chance, elle se provoque. La chance, c'est une grosse partie d'expérience qui va nous faire dire qu'on peut y aller dans des prises de danger, dans des prises de décision. On ne peut pas occulter cette part de chance. On peut aller treuiller dans une face où il ne s'est jamais rien passé. On sait que le granit ne se décroche pas. Et puis, malheureusement, ce jour-là, il peut y avoir un caillou qui va tomber sur les pales de l'hélicoptère. Ce facteur chance n'est pas à négliger. C'est juste, à un moment donné, l'analyser et que l'équipe l'accepte, en fait. C'est juste d'accepter de se dire, on sait que ça peut mal tourner, mais on c'est pas qu'on compte sur la chance, c'est qu'on l'a bien analysé, et ce facteur n'est pas à prendre à la légère. Il est aussi à prendre en considération dans la stratégie qu'on met en place. Inversement, on ne peut pas arriver sans analyser, on ne peut pas se mettre au pied d'une falaise en pensant tout maîtriser. Là, pour le coup, on se remettrait totalement à la chance et elle serait à bord de la machine, mais elle peut vite partir. Donc c'est un facteur à prendre en compte, mais attention, ce n'est pas le facteur prédominant et ce n'est pas sur celui sur lequel il faut se reposer.
Oui.
C'est une analyse, c'est un des éléments à prendre en compte aussi.
Dernière question, Éric Messnier, est-ce que selon vous, la montagne est devenue plus dangereuse parce qu'aujourd'hui elle est plus attirante pour les novices ?
Alors, on l'a vu avec la Covid, c'est redevenu un peu un des derniers espaces de liberté. L'année dernière, les stations de ski ont fermé, il y a eu une explosion du ski de randonnée. Les techniques ont évolué, le matériel a évolué, les gens ont besoin d'un peu plus de loisirs et se sont retournés vers la montagne. Et malheureusement, à contrario de l'autre côté, on a aussi des changements climatiques assez importants où on a des risques d'avalanche qui peuvent être modifiés en quelques heures, en quelques jours. De par le fun, de par la chaleur, de par les pics de température du haut et vers le bas, très froid ou très chaud en quelques jours. On a une instabilité assez forte. On a un ISO qui a tendance à monter très haut avec des chutes de pierres qu'on n'avait pas vues, des glaciers qui fondent. Donc on a un facteur où il y a de plus en plus de monde dedans parce que c'est un peu culturel. Et on a une montagne qui malheureusement devient un peu plus compliquée, complexe à lire et dangereuse. Donc malheureusement, on a un peu plus d'accidents et d'incidents qu'auparavant. Oui.
Merci beaucoup Éric Messnier d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre « Secours en montagne, 10 interventions extraordinaires qui ont marqué à jamais ma carrière au sein du PGHM ». C'est aux éditions Nimrod. Je vous le recommande très très fortement parce que c'est à découvrir en fait, tout simplement quand on est alpin et même quand on ne l'est pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.